Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? 1 Cor 1, 20 par Isaac Pennington 1660. Ceux-ci ont toujours été les ennemis et les opposants de la vérité, et ceux qui dressent de fausses images à toutes les époques, les sages, les savants, les grands disputeurs. Pour ces hommes, la vérité a toujours été insignifiante et méprisable, leur regard l'a constamment négligée, et leurs imaginations l'ont sans cesse dépassée, pour découvrir autre chose à la place, chose pour laquelle ils ont toujours eu l'aptitude et la vigueur de combattre, et contre la vérité elle-même. Et en effet, comment l'œil du sage pourrait-il voir cela, comment l'œil du savant pourrait-il reconnaître cela, qui vient tout à fait en dehors de la voie de son savoir et de son érudition, dans un chemin qu'il ne connaît pas du tout? La sagesse est justifiée par ses enfants. Qui sont sages pour le salut, ceux qui sont instruits dans l'esprit, ceux qui peuvent disputer dans la puissance de la vie et dans la démonstration de l'esprit, ceux-là connaissent sa demeure et ses voies, et peuvent la reconnaître à chaque âge et dans chaque dispensation et manifestation. Mais les sages et les savants de ce monde sont exclus de cette sagesse, et dans toute leur recherche de la vérité ils ne peuvent la trouver, et même s'ils en viennent parfois à en trouver et en goûter quelque chose, ils ne peuvent pourtant pas la garder, mais la sagesse, l'érudition. La vérité a toujours eu trois sortes d'ennemis. Les sages, les savants, les grands disputeurs. Premièrement, ceux qui ont nié la vraie forme de connaissance et de culte. Deuxièmement, ceux qui ont reconnu la forme, mais ont résisté à la puissance. Troisièmement, ceux qui ont eu un goût de la puissance, mais s'en sont ensuite écartés, et ainsi ont retenu ce dont ils avaient jadis un vrai goût dans la partie injuste, et y ont aussi ajouté par leur propre imagination. Quand Israël était en Égypte, cette pauvre compagnie illettrée de fabricants de briques, en servitude sous ce peuple sage, les Égyptiens, avec toute leur sagesse, ils ne pouvaient reconnaître leur d'Israël Dieu, ni leur culte. Mais leur d'Israël Dieu était un être inconnu pour toute cette égyptienne sagesse, Exode 5, 2, et son culte et son sacrifice étaient l'abomination à l'heure des Égyptiens Dieu. Exode 8, 26. Et Jannès et Jambrès, avec d'autres magiciens sages, s'opposèrent à l'apparition de Dieu. Et Pharaon et son peuple, avec leur sagesse, pensaient avoir empêché l'Israël de Dieu de se multiplier, Exode 1, 10, et avoir maintenu Israël sous leur servitude, après que le Seigneur s'était levé pour étendre son bras afin de les délivrer. Exode 5, 8, 9. Et comment toutes les nations sages veillaient-elles encore pour faire une proie de la Jérusalem de Dieu? Comment comptaient-elles les tours? Combien de fois pensaient-elles se partager le butin? Juge 5, 30, Isa 33, 18. Comment Sennachérib et Rabshakeh la firent-ils leur propre? Et lorsque le Seigneur livrait parfois Jacob au pillage, et Israël aux voleurs, comment pensaient-ils la tenir sous leur joug pour toujours? Le sage assyrien, le moabite, l'ammonite, l'édomite, le philistin, l'amalécite, le sage babylonien ou chaldéen, pensaient la tenir assujettie comme Pharaon l'avait fait, jusqu'à ce que leur sagesse et leur connaissance les pervertissent aussi, Isa 47, 10, et le prince de Tyr, qui était plus sage que Daniel, Ézéchiel 28, 3, pouvait lui aussi insulter Jérusalem et se réjouir de sa chute et de sa captivité. Isa 26, 2. Mais pour nous rapprocher, venons à Israël lui-même. Ce peuple, par toute la sagesse qu'il pouvait tirer de la loi, par toutes les expériences qu'il avait eues de la puissance de Dieu, par toute la foi qui s'était opérée en eux à la suite des délivrances, n'avait pourtant pas Dieu pour voir, ni d'oreille pour entendre, ni de cœur pour comprendre. Mais c'était un peuple qui s'égarait toujours dans son cœur et ne comprenait pas la voie de la vérité et de la paix. Les prophètes parmi eux étaient encore des fous, oui, l'homme spirituel à un insensé, Os 9, 7. Les prêtres étaient généralement ignorants du Seigneur, car bien qu'ils usent l'arche de sa présence, son tabernacle, son temple, l'autel, les sacrifices, le culte, etc., ils ne savaient pourtant pas où il était, ni ne le recherchaient, mais se contentaient d'une forme de connaissance et d'adoration. Et ceux qui maniaient la loi ne connaissaient pas celui qui avait donné la loi et qui en était l'unique véritable interprète, mais les pasteurs transgressaient contre lui, et les prophètes prophétisaient par un autre esprit. Jer 2, 8. Ils étaient sages et abondaient dans leurs propres significations, conjectures et connaissances accumulées, mais ils ne connaissaient pas la vérité, non, pas même celle de la lettre selon la loi, et selon cette lumière que Dieu faisait parfois briller parmi eux par ses prophètes. Ainsi le peuple, avec ses chefs, ses docteurs, ses prêtres, ses prophètes, était généralement ennemi des prophètes que Dieu suscitait, les haïssant, les persécutant, les emprisonnant, les lapidant, etc. Les prophètes de Dieu, qui parlaient sa vérité dans sa sagesse, dans sa vie, dans la puissance, dans la démonstration de son esprit, ils ne pouvaient les bannir de leur milieu. Ces prophètes étaient des fous à leurs yeux, ceux-là étaient des insensés pour eux, 2 Rois 9, 11, Jer 29, 26, c'étaient de pauvres bergers et laboureurs illettrés. Eux avaient des hommes instruits, élevés dans les écoles des prophètes, capables de prophétiser des choses divines, des choses agréables, capables d'ouvrir la loi avec érudition. Ses prophètes et ses prêtres, les chefs les chérissaient et le peuple les aimait. Jer 5, 31, Jer 23, 26, 27, Esdras 13, 3. Oui, parmi ce peuple, certains avaient pu avoir un goût de la vérité, comme Corée, Dassen et Abiram, car assurément ce n'était pas une petite chose qui pouvait ainsi les soulever au point de s'opposer à Moïse et à Aaron de cette manière, et de soutenir la contestation avec eux jusque dans la présence du Seigneur, non. 16-18, mais une conviction que Dieu était de leur côté, d'après quelques manifestations de lui à leur égard, et comme Balaam, dont les yeux s'ouvrirent pour voir la beauté des tentes de Jacob, pourtant ceux-là, par la prédominance des convoitises charnelles et de la sagesse, deviennent des ennemis et cherchent toujours à prévaloir sur Israël, même sur la vérité et sur la puissance. L'apôtre Jude compare cela aux anges qui n'ont pas gardé leur premier état. Les anges qui sont tombés avaient jadis une place et une position dans la vérité, mais ils ne l'ont pas gardé, ils ne sont pas demeurés dans la vérité, ils en sont tombés, et ainsi sont devenus des démons, ennemis de la vérité dont ils sont tombés. De même ceux qui tombent de la vérité, de la puissance, de la vertu vivante dont ils l'ont jadis goûté, de la vraie sagesse qui leur est autrefois apparue et a commencé à les assaisonner et à leur donner saveur, dans leur sagesse déchue ils deviennent les plus grands ennemis, les plus grands accusateurs, les plus grands opposants, et les plus opiniâtres défenseurs d'une fausse image de cette vérité, dont ils avaient jadis quelques connaissances et quelques unités. Ainsi en était-il dans l'État juif, venons maintenant au jour des apôtres. Premièrement, ils avaient contre eux tous les sages de cet âge, tous les sages grecs, tous les sages juifs, les hommes instruits, les disputeurs capables de toutes sortes. Les Grecs ne pouvaient trouver de sagesse dans cette connaissance de Christ qu'ils mettaient en avant, ni les Juifs y trouvaient de puissance, 1 Cor 1:22, et ainsi l'un la tenait pour folie, l'autre y trébuchait, 1 Cor 1:23. Il y avait parmi les Juifs beaucoup de sortes et de sectes d'hommes sages, mais aucune ne pouvait reconnaître la vérité, bien qu'ils la cherchent, scrutant les Écritures à son sujet et en disputant. La chose même alors en débat et en enquête parmi eux était, quand le royaume de Dieu viendrait. Le roi lui-même leur indique où il était, afin qu'ils sachent où l'attendre et l'espérer, Luc 17:20-21, et dans beaucoup de paraboles leur ouvre, mais ils demeuraient cachés à l'œil de cette sagesse par laquelle ils s'efforçaient de le voir, de le comprendre et de le saisir. Ainsi toutes les diverses sortes de sages de cet âge, même ceux qui admiraient la loi et les prophètes, étaient pourtant étrangers et ennemis de la vérité, parce qu'ils s'attachaient à cette sagesse et à cette érudition et compréhension des Écritures, hors de la vue desquelles elles venaient, deuxièmement. Quant à ceux qui reconnaissaient Christ selon la chair, ceux qui étaient convaincus par ses miracles, comme Nicodème et beaucoup des Juifs les plus honnêtes, pourtant Christ ne se confiait pas à eux, Jean 2:24. Ils savaient que cette foi et cette reconnaissance de lui, fondée sur la sagesse et l'ingéniosité de la créature, faillirait, et ainsi il ne la reconnaît pas chez Nicodème, mais lui dit de rechercher la nouvelle naissance, Jean 3:3, ni chez ceux qui le suivaient de ci de là pour cette raison charnelle ou pour une autre, mais parfois il se retirait et se cachait de Luc 5:16, Jean 6:14-15, et parfois il prêchait des doctrines qui les scandalisaient et les faisaient se retirer de lui, Jean 6:66. Ainsi au jour des apôtres, il y en avait beaucoup qui pouvaient obtenir la forme et en tirer avantage pour la sagesse charnelle afin de résister à la puissance. 2 Tim 3:5, 2 Cor 11:13. Troisièmement, il y en avait qui avaient goûté le don céleste et les puissances du monde à venir et pourtant étaient tombés. Hébreux 6:4-6. Il y en avait qui niaient le Seigneur astérisque qui les avait rachetés. 2 Pet 2:1. Il y en avait qui étaient tombés de l'amour de la vérité à l'amour de leur vomissure et de nouveau de la boue du monde. 2 Pet 2:22, 2 Tim 4:10. Il y en avait qui avaient une position dans le ciel de l'Église, comme les anges qui sont tombés, mais n'ont pas gardé leur demeure, et ont été balayés de là vers la terre par la queue du dragon, Rêve 12:4. Ceux-là sont les plus nobles champions dans la sagesse terrestre, et pour un état corrompu et une fausse image de tous les autres. Astérisque ce n'est pas ce que l'on dit qui fait de Jésus leur Seigneur ou Maître, mais leurs actes, le mépris, et la désobéissance à ses enseignements, et à ses commandements le nient comme Seigneur et Maître. Présumer que le toucher de Dieu, donné pour nous éveiller à sa réalité, n'est qu'un appel sans que l'on soit encore choisi, présumer que cela soit le baptême du Saint-Esprit ou la preuve d'être né de nouveau, ou pire encore, mal l'interpréter comme la preuve d'avoir été fait ministre ou désigné prophète, se croyant ainsi obligé de sortir prêcher la lettre sans esprit, ce qui entraîne un retard spirituel et la mort de l'âme, une telle présomption est catastrophique pour celui qui la nourrit. Or, de même que les prophètes de Dieu parmi les Juifs avaient ses ennemis, et que les apôtres aussi avaient ses ennemis, ainsi, tout au long de l'apostasie, ses ennemis ont foisonné. Les témoins ont une sorte sage d'opposant direct parmi les papistes, une sorte sage de sapeur secret parmi les protestants, et encore une autre sorte sage parmi eux-mêmes, ceux qui avaient quelque goût de la vérité, mais se sont éloignés de sa puissance pour tomber dans la sagesse terrestre, dans l'intelligence terrestre, et ce dernier genre combat plus furieusement et plus violemment contre la vérité, et est plus subtil pour l'attaquer et la saisir que les deux autres. Oh, il n'y a pas d'ennemi aussi âmé, aussi mortel, pour Christ et sa vérité, que que celui qui en a jadis goûté quelques vertus et qui maintenant s'en est détourné vers la terre, vers la sagesse et l'amour du monde, tout en gardant encore, dans la partie terrestre, une certaine notion de cette vérité, dont il avait jadis ressenti la puissance. Pour nous rapprocher davantage, il y a en tout homme qui n'est pas entièrement sanctifié une sagesse qui n'est pas de Dieu, cette sagesse de laquelle Dieu cache ses précieuses vérités, sagesse qui se tient prête à saisir toute découverte et révélation de la vérité qui lui est faite, afin de s'en servir et de s'enrichir et de devenir sage par elle. Or cette sagesse ne peut atteindre à la connaissance d'aucune des choses de Dieu, et cette sagesse ne peut non plus garder la vraie connaissance, mais tout ce que cette sagesse saisit, elle le corrompt aussitôt. La vraie sagesse, la vraie lumière, la vraie connaissance de Christ, est comme la manne dans le désert, elle descend chaque jour du ciel et doit chaque jour être recueillie fraîche. La vraie lumière jaillit de la vie, et elle doit être tenue dans la vie, dans le vase que la vie forme, dans l'outre nouvelle, dans l'intelligence nouvelle, non dans la partie charnelle, non pas même dans la partie naturelle, car de même que l'homme naturel ne peut recevoir les choses de l'esprit, 1 Cor 2:14, ainsi ne peut-il non plus les retenir. L'ancien entrepôt, dans lequel les choses terrestres étaient amassées, doit être brûlé, et non servir de trésor pour les choses de Dieu. Mais c'est l'intelligence nouvelle, donnée par celui qui est véritable, 1 Jean 5:20, qui renouvelle, qui préserve, et qui est toute dans le naturel. Descends hors de la partie terrestre, et lis-moi, afin que tu puisses dire en toi-même, et à ton sujet, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur, la partie sage, la partie qui sait, la partie qui s'étend en tout homme, tendra la main pour cueillir de l'arbre de vie, mais qu'a-t-elle jamais pu cueillir ? Je sais que des hommes peuvent recueillir des notions de toutes sortes, de toutes sectes, de tout genre de profession, de toute apparence ou dispensation, mais qui est capable de s'approcher de la vie, de toucher la puissance, la vérité, la source éternelle, ou quelque courant ou goutte d'eau qui en jaillit, et celui à qui est donné un vrai toucher au goût de cela, sa sagesse peut-elle y ajouter ? Non, peut-il seulement le retenir ? David en avait un vrai sens et une vraie expérience, lui qui s'écria : « Oh, continue ta bonté envers ceux qui te connaissent, et ta justice envers ceux dont le cœur est droit. » En effet, s'il n'aime pas retenir la chose elle-même dans sa connaissance, il peut améliorer la notion et la plier à la complexion et à la disposition de la partie terrestre en lui-même et chez les autres, mais ce n'est pas la vérité, c'est une image morte ou un souvenir mort de ce qui fut jadis réellement vivant. Combien l'âme, engendrée du souffle divin, née de la puissance et de la vertu vivante, dépend de Dieu pour ses souffles continus, rien n'a autant de Dieu, et pourtant rien n'est aussi peu capable de vivre sans lui. S'il se retire d'elle, aussitôt elle baisse la tête, non, s'il ne fait que cacher sa face, elle est troublée, et toute la plénitude qu'elle avait juste auparavant de Dieu n'est pas capable de soutenir sa vie un seul instant. Mais elle halète, elle faiblit, elle languit et se flétrit, jusqu'à ce qu'un nouvel apport de rafraîchissement lui soit administré. Et celui qui connaît cela en quelque mesure ne s'étonnera pas de la détresse et de la misère de ceux qui manquent de la présence de Dieu, et de leur cri après la source de leur vie, comme le cerf brame après les ruisseaux d'eau, quand bien même ils auraient la plénitude de toutes choses extérieures, oui, et aussi la plénitude de connaissances en matière de religion, même concernant toutes conditions et tous états. La chose qui me manquait dans ma grande misère, ce n'était pas la connaissance extérieure, ce n'était pas l'expérience de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Mais ceci me manquait, les formations de sa vie fraîche, et connaître expérimentalement où l'attendre, et le connaître avec amour quand elle apparaissait. Car elle était encore près de moi tout le temps de mes ténèbres, et me préservait, et m'apparaissait, mais je ne la connaissais pas avec amour, et je pensais être plus sage que les autres. Car je voyais beaucoup de gens trompés, et je ne voulais donc pas la reconnaître de la manière dont elle apparaissait alors en moi, de peur d'être trompé moi aussi comme les autres, mais j'attendais une apparition qui ne pourrait être mise en question par la sagesse charnelle. Et celui qui attend cela, et qui méprise ainsi le jour des petites choses, ne peut que refuser la petite semence, et ainsi n'étant pas reçue dans sa terre, elle ne peut jamais croître en lui jusqu'à devenir un grand arbre, si bien que la gloire du royaume lui sera cachée, et qu'il en sera exclu, tandis que d'autres y entreront et s'y assiéront. Ainsi donc, que celui qui veut être sage devienne fou, afin d'être sage, qu'il reçoive pour sa lumière, son roi, son guide, ce que la sagesse de l'homme n'a jamais reconnu et ne reconnaîtra jamais. Que celui qui souhaite jouir du consolateur reçoive le réprouveur, celui qui convainc de péché, et attende sa loi qui le juge tout au long du cours entier de son état et de sa nature pécheresse, passant avec lui à travers toute la condamnation astérisque jusqu'à ce qu'il arrive avec lui à la justification de la vie, à laquelle la sagesse charnelle, ni aucune de ses connaissances des choses de Dieu, telles qu'elles sont tenues dans la partie charnelle, n'arrivera jamais avec lui. Astérisque, c'est le ministère de la condamnation, par lequel chacun doit passer avant de bénéficier du ministère de l'esprit de vie, Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? La sagesse de ce monde est précieuse aux yeux du monde, et la sagesse de Dieu dans ces pauvres vases de terre faibles et méprisés, n'est pour eux que folie, mais le Seigneur l'ordonne ainsi, qu'il justifie encore sa sagesse méprisée dans ces vases méprisés, et qu'il fasse paraître la sagesse du monde comme folie à tous les cœurs simples et droits, qui ont soif de la révélation de sa vérité et qui l'attendent. Or il y a deux manières par lesquelles le Seigneur fait particulièrement apparaître la folie de la sagesse de ce monde. Premièrement, par toute leur sagesse ils ne peuvent découvrir la vraie connaissance de Dieu. 1 Cor 1:21. Le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu. Bien qu'un désir très ardent soit allumé en eux pour connaître Dieu, bien qu'ils prennent toutes les voies que le cœur peut imaginer pour atteindre leur désir, bien qu'ils étudient et méditent aussi ardemment que possible, bien qu'ils acquièrent quantité d'art et de langue, non, bien qu'ils lisent les Écritures même avec la plus grande assiduité, bien qu'ils travaillent dans le feu, pourtant ce qu'ils obtiennent, ce qu'ils recueillent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils saisissent par cette sagesse, tout cela n'est que grande vanité. Rab 2:13. Cela n'atteint pas l'immortel, cela ne nourrit pas l'immortel, cela ne satisfait pas l'âme, cela ne rafraîchit pas la semence, mais ne fait que nourrir et plaire à la partie terrestre, à l'intelligence terrestre, à l'esprit terrestre, aux désirs et affections terrestres, c'est-à-dire à la part de l'homme, à l'esprit de l'homme, à la nature de l'homme, laquelle, fût-elle élevée et exaltée aussi haut que possible, n'est pourtant que terre. Deuxièmement, en ce que toute leur sagesse ne peut leur apprendre à descendre, à se soumettre, à entrer dans la voie de Dieu, celle où leur sagesse est crucifiée, et où est élevé en eux ce qui peut recevoir la vérité. Cela, ils ne peuvent jamais l'apprendre dans la sagesse charnelle. Ils peuvent certes aller jusque-là, voir qu'il n'y a pas d'entrée autrement que par la mort, et chercher la mort afin d'entrer dans la vie, mais ils ne peuvent la trouver. La semence de Jacob, dans sa recherche, ne manque pas, mais ce chercheur ne trouve jamais, à ce demandeur il n'est jamais donné, et à ce frappeur il n'est jamais ouvert. Et c'est ce qui fait que cette sagesse, sous toutes ses apparences dans tout genre de profession et toute secte de professants, se déchaîne contre la semence de Jacob, précisément parce qu'elle se trouve toujours exclue de la vie, dans laquelle une entrée est accordée à la semence. Et comment ce qui voudrait volontiers le royaume pourrait-il ne pas se déchaîner contre ce qui lui ravit l'héritage? Comment toutes sortes de professants ne s'efforceraient-ils pas de tuer l'héritier, afin que l'héritage soit à eux? Sans la semence vivante, et la puissance et la vertu vivante qui se manifestent en eux et parmi eux, la religion et le culte de la première naissance pourraient passer pour la vraie voie. Mais ce qui obscurcit la gloire de toutes les professions et de tous les professants sur la terre, c'est précisément cette chose vivante que Dieu a engendrée en son peuple, ainsi que sa présence vivante avec elle et sa bénédiction sur elle. À cela, tous les sacrificateurs, docteurs et professants zélés, hors de la vie, s'emportent et deviennent fous, et voudraient briser les cordes et les liens avec lesquels cela s'efforce de les attacher à l'autel de Dieu. Or, regardez à travers tous les âges, les sages païens pouvaient-ils s'abaisser à la dispensation de Dieu envers les Juifs? Cela n'était-il pas folie et abomination pour eux? Ou bien les sages juifs pouvaient-ils s'abaisser à la loi au-dedans, à la parole dans le cœur, bien que Moïse les y dirigeât, 2 Tronc 10:14, pour y apprendre à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec leur Dieu? Mic 6:8. Pouvaient-ils attendre là que leur cœur fût circoncis par cette parole de puissance, et ainsi d'être lavés et rendus purs? Non, n'étaient-ils pas noyés dans les sacrifices extérieurs, le temple, l'encens, les nouvelles lunes et les sabbats, et ce genre d'observance, et ne pouvaient-ils pas entendre la vérité du Seigneur telle qu'elle avait été donnée par Moïse, ni telle qu'elle avait été ouverte par les prophètes, Isaïe 1:11-14. Ainsi ce peuple, cherchant à connaître le Seigneur à partir de la lettre par cette sagesse, ne pouvait jamais parvenir à sa connaissance, mais le lieu de sa lumière et de sa sagesse leur était caché. De nouveau, quand Christ vint, et que le royaume fut prêché, et que la voie éternelle de la rédemption et du salut fut manifestée, l'œil sage chez les Grecs ou l'œil sage chez les Juifs pouvait-il la voir? Les Grecs ne se sont-ils pas exclus eux-mêmes par une sagesse au-dessus de la lettre, comme ils le pensaient, et les Juifs par une connaissance et une sagesse qu'ils avaient tirées de la lettre? Qu'ils étaient sages, à partir de la lettre, pour raisonner contre le roi de vie, cet homme ne peut être de Dieu car il viole ses sabbats. C'est un Nazaréen, et peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il a dit que le Fils de l'homme devait être élevé, mais nous lisons que le Christ demeure pour toujours. Il est contre le temple de Dieu, contre le jour d'adoration de Dieu, il donne à ses disciples une latitude et une liberté que ni les pharisiens ni Jean n'ont donné à leurs disciples, et il outrage nos docteurs et interprètes de la loi, stricts et pieux, les appelant hypocrites, guides aveugles, etc. Et voyez avec quel esprit rude et sévère il les reprend, alors qu'en fait il l'appelle maître et lui parle doucement et avec douceur. Oh, quel juif, dans cette nature, dans cette sagesse, dans cet esprit, n'aurait pas trouvé matière et occasion de trébucher sur Christ, même à partir de la loi et des prophètes. Et comme ils ont trébuché sur le vrai Christ, ainsi toutes les générations de sages depuis l'apostasie, tous les hommes instruits en général, leurs conciles, synodes, convocations et assemblées, ont trébuché sur la véritable Église, cherchant quelque édifice semblable à celui qui avait existé au jour des apôtres, et ne comprenant ni n'observant comment le Seigneur renversa cet édifice, tel qu'il avait été établi dans le monde, et comment il prépara un lieu dans le désert pour sa véritable Église, à laquelle il donna des ailes pour. Rêve 12. Et comment ensuite la fausse femme, ou fausse Église, s'éleva à sa place, et avec une coupe d'or de fornication, ensorcela les rois et les habitants de la terre. Rêve 17:2, c'est-à-dire des peuples, des multitudes, des nations et des langues, verset 15, de sorte qu'ils la prirent pour la véritable Église et allèrent dans son lit de prostitution. Lequel de tous les hommes instruits, lequel de tous les conciles des papistes a vu cela? Non, lequel des conciles, convocations ou assemblées protestants a contemplé l'état de la véritable Église? Non. Toutes sortes et toutes sectes de protestants n'ont-ils pas cherché à construire quelque image ou ressemblance de la véritable Église, sans même soupçonner qu'elle s'était enfuie dans le désert, et qu'elle devait y demeurer un temps, des temps et la moitié d'un temps? Oh, quelles ténèbres ont couvert la terre! Oh, comme Dieu a rendu fous les sages de toutes sortes, les sages de chaque âge, les sages protestants aussi bien que les sages papistes, les sages congrégationalistes et baptistes aussi bien que les sages épiscopaliens et presbytériens! Et combien les nations et les peuples sont aveugles et abrutis, eux qui pensent encore découvrir la vérité en tenant un synode, une assemblée ou une convocation des sages réunis. À vrai dire, ce sont les plus aptes à élever une image pour plaire à la partie terrestre de l'homme et aux puissances et intérêts terrestres, mais la vérité n'est jamais venue par ce chemin, et les sages et les savants en ont toujours été exclus et se sont révélés ses ennemis. Quiconque sort de l'apostasie, de l'esprit et de la vérité, pour revenir à l'esprit et à la vérité, ne trouvera pas d'ennemi plus grand que la sagesse en lui-même, et les directives provenant de la sagesse chez les autres, car ce que Dieu conduit, c'est un être simple, un faible bébé, un enfant pour la sagesse du monde. Et il le conduit dans un sentier qui est entièrement en dehors de la ligne de la sagesse de ce monde, et de la connaissance des Écritures, tout comme le chemin que Dieu choisit au jour de Christ et des apôtres n'était pas. Telle est la restauration, hors de l'apostasie. Elle est cachée à tous les sages charnels de cet âge, tout comme l'entrée dans les vérités du royaume était cachée à tous les sages charnels de cet âge-là. Heureux celui qui cesse de s'efforcer d'acquérir la connaissance et de comprendre les choses de Dieu dans l'esprit et la sagesse de ce monde, et qui attend, dans l'humilité et la crainte du Seigneur, d'être d'abord rendu fou, afin d'être ensuite rendu sage pour la vie éternelle. Isaac Pennington. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformante de Dieu par la croix, laquelle mène à l'union avec Dieu dans son royaume.